Shalom uvracha, boker tov, bienvenue à tous ceux qui viennent pour écouter aussi les paroles de Torah que Be'ezrat Hashem nous allons développer concernant en fait ce concept qui s'appelle l'exil d'Égypte et la sortie d'Israël de cet exil. Je voudrais juste vous informer qu'il ne s'agit pas seulement d'un déplacement issu d'une révolte, ni économique, ni sociale. Ce ne sont pas les gilets jaunes de l'époque. Il s'agit ici d'un phénomène, d'une phénoménologie qui touche, en fait, l'ensemble de la création du monde. L'importance de la sortie d'Égypte, en fait, touche le cosmos. Cosmos, traduction, l'ordre de l'univers. Lorsque Israël n'est pas encore révélé dans le monde, car c'est de cela qu'il s'agit, la sortie d'Égypte va révéler pour la première fois le peuple d'Israël. Tant que ceci n'est pas, le monde tient à condition. C'est-à-dire qu'il est à chaque instant en train de tomber. Il n'est pas encore. Le monde attend la sortie d'Égypte pour que la parole divine commence à se révéler dans sa propre création. Et vous allez voir que ce sujet est tellement grand que nous allons appréhender cette vision d'une facette que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant. Rappelez-vous de nos cours d'avant, ça va nous servir. On commence. Am Israël hu shmo, sinoro shel yutkevaske. Le peuple d'Israël est le nom du tétragramme. Le nom, en hébreu, c'est pas on s'appelle quelqu'un, mais réellement, l'appeler pour qu'il vienne. C'est-à-dire que lorsque j'appelle quelqu'un, il vient. Je le lis. En hébreu, likro, appeler, et likro, lire, ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que lorsque j'ai appelé un texte, lorsque je lis un texte, je le fais sortir des lettres et du papier et de l'encre, et ces lettres en réalité viennent et prennent réalité dans la vie. C'est comme si les lettres étaient un oiseau dont les ailes étaient fermées, et chaque fois que j'appelle un texte, que je lis un texte, l'oiseau ouvre ses ailes et commence à voler. Je veux dire par là que lorsque nous lisons la Torah, nous faisons sortir des lettres inertes et nous faisons de ces lettres-là une réalité. Il y a quelque chose de nouveau maintenant. J'ai fait appel, j'ai appelé, j'ai acheminé dans ce monde une réalité nouvelle. D'où l'importance de la parole. Ne prenez jamais à la légère ce que vous dites. Et plus vous allez grandir dans la Torah, plus votre diction va être précise. Et c'est comme cela que nous allons voir, en fait, votre niveau. Les gens qui ne savent pas aiment ajouter, aiment broder. Les gens qui savent disent, c'est précis, ça touche, parce qu'il y a ici une identification, une capacité à mettre des mesures, une capacité à nommer quelque chose, et donc à définir quelque chose. Et c'est ça la force dans tous les domaines. Ce que vous ne savez pas définir est quelque chose que vous ne pouvez pas réellement acquérir. Donc le peuple d'Israël, c'est le nom, le canal de l'infini béni soit-il, que nous appelons aujourd'hui le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. Vous allez voir que ce n'est pas seulement un nom, c'est en réalité la réalité de tout ce qui se passe dans l'existence. Quand vous faites appel à ce nom-là, en réalité, vous touchez tous les éléments de la vie. Ces quatre lettres, en réalité, touchent les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Ces quatre éléments touchent toutes les directions, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Ces quatre lettres touchent tous les degrés de l'être, le nefesh, le ruach, la neshama, la chaya et la yechida dans la Kabbalah. Ces quatre lettres touchent les doigts de la main avec la pointe du yud et les quatre lettres, parce que dans le yud du nom d'Hachem, il y a aussi ce qu'on appelle kotso shel yud, la pointe. Et j'en passe, parce que c'est infini, parce qu'il s'agit de l'infini. Et lorsque je vous parle donc, et que vous voyez ce nom-là, que j'ai mis en gras, volontairement, eh bien il s'agit en réalité de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que concept, révèle la vie. Et vous, vous appelez ça Dieu. Car Dieu, c'est pas Dieu, on n'est pas des Grecs. J'emploie ce terme parce que vous parlez français. Et malheureusement, on a oublié que Dieu vient de Zeus. Et Chas v'Shalom, c'est comme si on était en train de parler de la mythologie grecque, alors que nous sommes loin de cela. Le tétragramme en hébreu, c'est Shem Havaya, le nom de l'être. L'E. T-R-E, de tout ce qui est, de tout ce qui vit, et nous vivons tous de ce nom-là, de cet être infini. Donc c'est beaucoup plus grand que ça. Alors, puisque nous parlons français, juste que vous le sachiez, quand vous dites Dieu, c'est limitatif, très limitatif, et ça nous amène, les gens qui le savent, vers d'autres niveaux qui ne sont pas les nôtres. Je donnerai à la fin du cours, à la demande des élèves, un petit quart d'heure de questions et de réponses. Donc, essayez de ne pas me couper en chemin. Donc, Israël est le porte-parole de cet être, qui donc a créé ce monde afin de se dévoiler dans ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a créé ce monde pour dévoiler ses vertus, pour dévoiler ses valeurs, pour que le monde se conduise selon ses critères, et pas selon le cérébral intellectuel limité des êtres que nous sommes. En réalité, nous sommes obligés d'avoir quelque chose qui vient de l'au-delà de notre système. Car nous sommes emprisonnés, que vous le vouliez ou non, de notre propre système. Vous ne pouvez pas réfléchir autrement que ce que votre cerveau est capable de réfléchir. C'est l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas le droit d'étudier la Torah tout seul. Je suis obligé d'avoir quelqu'un en face de moi qui ne pense pas comme moi pour me donner éventuellement l'inverse de ce que je dis ou compléter. C'est-à-dire que nous sommes limités. Nous avons un cerveau limité. Si je me fie à ce cerveau limité et je tire les conclusions dans ma vie selon ce cerveau limité seulement, je suis voué à l'échec. Je vous rappelle que ceci était la faute du premier homme. Le premier homme a mangé, consommé, pas qu'il a pris un fruit et qu'il a mangé, il a tout simplement préféré prendre conseil chez qui ? Chez lui-même, chez son intellect, qu'on appelait le serpent. Au lieu de prendre le conseil de l'infini, qu'on appelait l'arbre de la vie. Étant donné qu'il est tombé dans ce degré de l'intellect humain, eh bien nous pouvons répéter cette faute chaque jour. Et il faut faire très attention. Alors, quelle est la solution? C'est que l'infini vienne me dire quels sont ses critères, et pas les critères de ma raison. C'est ce qu'on appelle le don de la Torah. Donc l'infini, béni soit-il, nous a donné en fait, à travers la Torah, sa volonté. En étudiant la Torah, nous étudions ce qu'il veut. Comment il veut que ce monde vive. C'est clair? Qui va être capable d'écouter cet infini? Encore une fois, ça ne peut pas venir d'un homme qui dit « j'ai envie ». Mais c'est l'infini béni soit-il qui a créé une entité humaine, une forme d'âme qui s'appelle Israël, qui un jour lorsqu'elle apparaîtra dans ce monde sous la forme du peuple, elle seule sera capable d'être à l'écoute et de comprendre le message que Dieu est en train de nous donner. Donc la Torah ne pouvait pas être donnée à quelqu'un d'autre qu'à ce degré-là, qu'à Israël seulement, qui ont été prévus pour comprendre et pour traduire cette volonté en réalité de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de la Torah après la sortie d'Égypte. Mais vous comprenez bien que sans sortir d'Égypte, on ne reçoit pas la Torah. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que tu es en Égypte, tu es encore limité à quoi? Aux règles de la nature. Donc je suis en train de vous introduire dans notre sujet. L'Égypte n'est pas seulement un pays, mais une limitation de l'esprit. En hébreu, Mitzrayim, la lettre, les lettres principales, c'est Metar, une prison. C'est-à-dire que tu es emprisonné dans ta pensée. Tu ne peux pas dépasser ton propre cerveau, donc tu es en train de tourner en rond et tu ne peux pas sortir de ton propre système intellectuel. Si quelqu'un va venir te faire sortir de cela, il va te donner la possibilité d'appréhender un monde qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ton propre cerveau. Donc, je ne peux pas moi-même tout seul me faire sortir d'Égypte. J'ai besoin d'une intervention infinie. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Haggadah de Pessah, c'est moi qui vous ai fait sortir, vous n'êtes pas sorti tout seul. Il est impossible, si tu es dans l'eau, de te prendre par les cheveux et de te sortir de la piscine. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous sortir. Que vous compreniez bien ce système. Donc, la sortie d'Égypte, c'est en réalité Dieu qui libère, qui son porte-parole. Car sans libérer ce porte-parole, le seul peuple qui est capable à l'écoute, eh bien, qui reste en prison? L'Éternel lui-même. Parce qu'il n'y a pas de révélateur. Il n'y a pas de peuple d'Israël qui est capable de révéler son nom dans le monde. Moralité, la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est sortir de prison à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et rester en Égypte, c'est enfermer l'Éternel dans une prison de l'esprit. Dieu est dans le ciel, notre maître qui est aux cieux. Restez-y. Ça, c'est pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est de faire descendre les valeurs de l'infini dans le monde de la création, dans la matière. Dans ma façon de vivre, dans ma façon de construire une maison, dans ma façon de me marier, dans ma façon de manger, dans ma façon de dormir, dans ma façon d'avoir des enfants, dans ma façon de créer un État, dans ma façon de gérer une politique. Tant que l'Éternel, avec ses valeurs, ne descend pas complètement dans tous les recoins de ce monde, on n'est pas encore dans la Géoula complète. Donc nous avons un rôle à jouer dans l'histoire humaine très important. Et ce rôle commence au moment de la sortie d'Égypte. Car tant qu'on est en Égypte, je vous le rappelle, on est encore sous l'emprise du Nahash, du serpent, donc de l'intellect humain sclérosé. La preuve en est, c'est que le tétragramme est inconnu en Égypte. Et d'ailleurs, le pharaon dit lui-même, « Mi, Yutke Vaske, c'est quoi ce nom-là? C'est qui me demande de libérer Israël? Je ne le connais pas, moi, ce nom. Je ne connais pas ce Dieu, donc je ne peux pas vous libérer. » Effectivement. Tu ne peux pas te libérer, parce que toi-même, tu es un esclave. Comment s'appelle l'Égypte? Bet Avadim. L'Égypte tout entière est une maison d'esclaves. C'est pas qu'il y a des esclaves qui s'appellent les enfants d'Israël et les Égyptiens sont des maîtres. Tout le monde est esclave là-bas, y compris l'Égypte. Mais tout simplement parce que c'est un système qui est incapable de dépasser la logique humaine. C'est ça, la prison. Donc toutes les autres nations. Donc la seule nation, et c'est bien que tu aies compris ce point-là, qui un jour a dépassé, a prouvé qu'on peut dépasser la logique humaine sclérosée, c'est le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Commencez à comprendre l'importance de ce phénomène historique qu'est la sortie d'Égypte. Il s'agit maintenant de quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dévoilé jusqu'à ce moment précis de l'histoire. Deuxième ligne. Am Israël livra Lyotkli Giluyosh la Raton Aelion. Donc le peuple d'Israël a été créé pour être l'ustensile du dévoilement de la volonté divine. Le mot Keli, ce n'est pas juste l'ustensile pour la Netilat Yadaï que vous voyez. Le mot Keli est un secret. Il y a à l'intérieur de ce Keli toute la nation d'Israël. Keli, c'est trois lettres, Kaf, Lamed, Yud, Kohanim, Leviim et Israélim. C'est-à-dire le mot Keli contient toutes les parcelles du peuple d'Israël. Kohen, Lévi, Israël, ceux qui montent à la Torah. Et nous sommes ce Keli. Dans le corps humain, ce Keli a aussi une place. C'est-à-dire si je veux voir où se trouve ce degré dans le corps humain, quel est le phénomène physiologique qui représente Israël dans le corps humain, nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, le cœur. Israël, lev sheba umot. Israël est le cœur parmi les nations qui sont, vous comprenez, le reste des membres du corps. Donc l'humanité tout entière, c'est un corps. Et Israël, dans tout ce corps, c'est le cœur. D'accord ? Léa, on y arrive. Il est khach. C'est pourquoi, quand la historia chez l'âme Israël, toute l'histoire du peuple d'Israël en fait, Eina ki im hazira, c'est en réalité la reine, pas la reine, le roi, la reine, et l'apostrophe, la reine, dans laquelle cette arène, Akadosh Baruch Hu, va se dévoiler. C'est tout. Donc, quand vous voulez voir comment l'Éternel se révèle dans ce monde, vous regardez l'histoire du peuple d'Israël. C'est tout. L'infini béni soit-il se révèle à travers notre histoire. Il se cache dans notre histoire. C'est comme ça que le Rav Kook lisait le mot historia, Esther, il se cache, il y a Dieu. Donc historia, c'est tout simplement le camouflage de l'infini dans l'histoire humaine. Et si vous savez lire l'histoire, écouter les informations qui se passent, en réalité, qu'est-ce que vous comprenez? Comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son processus à travers les événements historiques? C'est tout. Donc nous avons une mitzvah d'étudier l'histoire. Comme il est dit dans la Torah, « Binu, ayez le discernement, shnot dor vador », de savoir ce qui se passe à chaque génération, parce qu'en réalité, c'est la révélation de l'infini dans cette génération. On n'attend pas des choses qui viennent du ciel. Malheureusement, nous avons une appréhension et un lien infantile avec l'infini, béni soit-il. On a l'impression que un jour vous allez voir, je ne sais pas quoi, chacun avec son imaginaire développé, un talit, des trucs qui vont descendre du ciel, j'en sais rien. Et quand ça va très 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 loin, c'est même une cheminée avec un petit bonhomme qui se balade dedans. Très bien. Habillé en rouge et blanc. Il faut arrêter avec ces bêtises. Akadosh Baruch Hu s'habille dans l'histoire des hommes et précisément dans l'histoire d'Israël. Donc j'étudie l'histoire d'Israël, j'étudie qui en fait ? La phénoménologie divine. Comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans son histoire, comment il fait avancer ses intérêts. Jusqu'au moment où, comme je vous l'ai dit au début, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler complètement dans ce monde. Donc nous sommes les porte-paroles de ce message-là. Donc Akadosh Baruch Hu s'habille dans notre histoire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je sors d'Égypte, c'est Dieu qui sort d'Égypte. Quand j'arrive en Israël, c'est Dieu qui arrive en Israël. C'est tout. Quand vous faites votre alia, c'est Dieu qui est en train de ramener sa Shekhina à Sion, comme vous le dites dans la Amida, Amachazir Shekhinato le Sion Modi Manachnula. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux rien comprendre. Comment un Kadosh Baruch Hu ramène la Shekhina, c'est quoi? C'est des vapeurs. De quoi on parle? Alors arrêtez d'être des planeurs. Nous sommes un peuple cohérent, mais avec une cohésion qui dépasse l'entendement humain et qui comprend qu'il y a, au-delà de ma façon de penser, des degrés qui me dépassent et qui sont divins, que j'ai reçus en plus. Ils sont dans ma Torah. Donc toute la Torah que nous étudions, c'est un degré qui est de l'ordre de l'infini, dans un monde qui est dans l'ordre du fini. Et donc on fait le lien, le mariage entre les deux tous les jours. Et quand vous allez vous marier, sous la choupa, c'est ce qui se passe. Votre petit couple privé, individuel, toi et la bonne femme avec laquelle tu vas te marier, en réalité c'est qui ? Eh bien c'est le couple en question dont je suis en train de vous parler. L'homme va représenter en fait les valeurs de l'infini, et la femme va représenter la réalisation de cette chose-là dans ce monde. Et quand tu fais le lien, eh bien qui se marie avec qui ? Dieu se marie avec le monde. Et d'ailleurs, personne n'entend, parce que pendant que vous allez au mariage, vous êtes tous occupés avec vos téléphones. Malheureusement. Ou à filmer, ou à regarder des messages, mais personne n'est dans la choupa. Alors que la bénédiction sous la choupa, c'est quoi ? À part Boré Priya Geffen ? Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Amo Israël, Aliyede Choupa Vekidushin. Qu'est-ce que je viens de dire ? Béni sois-tu l'Éternel qui est en train maintenant de sanctifier son épouse, l'Assemblée d'Israël, à travers ce petit mariage qui se passe ici devant moi. Moi, j'ai cru que je suis venu pour le mariage de Keren et de David. Et je m'aperçois que je suis dans le mariage entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël et ce monde. Oh là 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 là. Comment est-ce que je peux arriver en retard à ce mariage, comme la plupart ? Quand on vous dit d'arriver à 7h30, vous arrivez à 9h, et la choupa commence à 10h30, et tu commences le premier plat à 11h, et à 11h15, tu as envie de rentrer. C'est ça la choupa ? Quand vous arrivez en retard, quand vous ne respectez pas, et ceux qui invitent les gens à une choupa à 19h30, et qui commencent eux-mêmes la choupa à 21h30, ont volé 2 heures aux gens. Mais ça, c'est pas très grave. Ils sont en train de retarder quoi ? Le mariage entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Ça vous paraît anodin ? Il y a marqué 19h30, ça va, on commence. On sait toujours que c'est comme ça. On marque 19h30, mais on commence à 21h. Alors pourquoi tu mens ? Pourquoi on le sait ? Tout le monde est d'accord avec ce mensonge. On est devenu malade. C'est pour ça que je suis très, très, très à cheval sur les horaires. Et je vous l'ai déjà dit, je vais changer la serrure ici, et si vous avez ne serait-ce qu'une minute de retard, vous ne rentrerez pas au cours. C'est moi qui vous le dis. Et je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà fait. Ça fait 20 ans que je suis au Machon Meir. On l'a déjà fait. Vous ne rentrerez pas au cours. Comptez sur moi. Mais pour révéler son rôle dans le monde, il fallait d'abord révéler ce peuple. C'est sympathique de savoir qu'il y a un peuple de cette envergure, de cette grandeur, mais il est où? Vous comprenez qu'il n'était pas encore dans le monde. Il n'y avait que des éléments qui s'appelaient les enfants d'Israël, qui était Jacob. Ce n'est pas encore un peuple. Or, avec ces éléments individuels, on ne peut pas encore commencer à jouer notre rôle dans l'histoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez qu'un juif, individuellement parlant, ne peut rien faire. Seul, il est obligé d'être au sein d'une nation. C'est la nation qui agit à travers ses membres. Mais ce n'est pas des membres disparates, c'est comme un corps humain. Il n'y a pas des mains qui bougent tout seul. C'est Yoël qui fait bouger ses doigts. Il n'y a pas un doigt qui bouge. Il n'y a pas un œil qui voit, je peux poser mon œil sur la table, il ne verra rien. C'est parce qu'il est incorporé dans l'ensemble qui s'appelle la nation que ce membre est capable de voir. Vous avez déjà vu une oreille qui entend? Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu une bouche qui parle? Ça n'existe pas. C'est moi, l'être entier, qui parle à travers l'un de mes membres, la bouche. Vous avez compris la différence? Donc un juif, une bouche ne peut pas parler. C'est le peuple, Yoël, qui parle à travers une bouche, toi ou elle. Et c'est la même chose avec tous les membres du corps. S'il n'y a pas un ensemble qui conduit le tout, les membres eux-mêmes, même si tu les colles ensemble et tu les couds, comme Frankenstein, tu ne feras rien du tout. D'ailleurs, lorsque l'élément « moi » n'est plus dans ce corps, il se disloque. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont été enterrés depuis un an, deux ans, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un élément conducteur, rassembleur, qui dirige le tout. Donc il n'y a plus, donc tous les éléments se baladent, c'est fini. Et c'est la même chose dans le peuple d'Israël. Vous comprenez la maladie de l'exil. Tant que le peuple d'Israël est en exil, ce sont des membres, en réalité, qui sont très 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 loin de l'ensemble qui est en train de bouillir et qui agit dans le monde. À tel point que Ézéchiel appelle l'exil un cimetière. Ézéchiel 37. Prophétie. Donc c'est Dieu qui parle. Je vous sortirai du grand cimetière des nations pour vous ramener sur la terre de la vie. Bienvenue, vous êtes tous des morts vivants. Vous parlez de la résurrection des morts? Voilà, je les ai devant moi. Nous sommes des morts qui ont ressuscité. Et Baruch HaShem, ça continue, puisque chaque jour, des avions de morts qui viennent revenir à la vie arrivent dans l'aéroport. Quand ils sont dans l'avion, tu peux les voir, c'est des Walking Dead. Et quand ils arrivent sur la Terre, ils commencent à vivre. Malgré ce que vous voyez avec vos yeux, vous avez l'impression que là-bas, je vivais ici, j'ai plein de problèmes. C'est vrai, avec le cerveau humain. Cerveau divin, c'est un autre degré. À qui tu écoutes? Quels sont les conseils auxquels tu obéis dans ta vie? Faites attention. La logique. Je ne peux pas monter, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça fait coincé, ça fait le machin, tout ça c'est humain. Tu as oublié une seule chose. C'est ce que l'Éternel veut. Donc tu n'obéis pas à ses lois, à lui, mais à ton intellect, à toi, donc tu es en train de retomber dans la faute du serpent. J'ai dit que les questions sont à la fin. Klomar. Sheigi Azman Lekar, Che Mishaya Bamarchevet Abriya Trila. Donc celui qui était dans la pensée divine, parce que Dieu a pensé Israël en tant que nation. Mais cette pensée, il va falloir la traduire, l'animer, la mettre en vie, la mettre en marche, appuyer sur des boutons. Bien. Il fallait que Itgalé Bofen Mamashi, que cette pensée divine, qui était donc la nation d'Israël, ce concept qui s'appelle Israël, arrive dans la vie. Quand est-ce que ce concept arrive dans la vie pour la première fois dans l'histoire? À la sortie d'Égypte. C'est la première fois dans l'histoire que la Torah va dire la notion de quoi? Am, le peuple. Incroyable. Jamais ça n'a été dit jusqu'à maintenant. Et qui va dire ce nom-là, paradoxalement parlant? Paro. Incroyable. Ça veut dire que, si je comprends que la Torah est une prophétie, ce qui s'est passé dans le passé se passera dans le futur. C'est les nations du monde qui vont reconnaître que nous sommes un peuple, alors que nous-mêmes, nous sommes incapables encore de le savoir. Donc les nations du monde comprennent avant nous, bizarrement, que nous sommes un peuple. Et nous, nous avons l'impression que nous sommes des individus. Comment est-ce qu'ils vont le faire? À la dure. Comment tu t'appelles, toi? Eisenberg. Ah, tu es religieux, pas religieux, tu as une barbe, tu n'as pas de barbe, tu as des PO, tu n'as pas de PO, tu n'en as rien à foutre, tu fais partie d'une nation, allez, au four. Vous avez compris? Nous, on a des petites bagarres, des petites guéguerres. Celui-là, c'est une kippa comme ça, et l'autre, c'est une kippa comme ça, et l'autre, c'est une... Quand il vient l'autre, on n'en a rien à foutre des kippotes. Elles brûlent pareil à l'intérieur du four. Vous avez compris? Dans cet acte de monstre, ils nous ont définis en tant que peuple, pas juif, peuple. Vous faites partie de ce peuple. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous êtes un peuple. Arrête de me dire que tu es un individu paumé. Tu ne fais pas partie, parce que tu n'es pas religieux, donc ne me brûlez pas. Moi, je ne fais pas partie de cette bande. On n'en a rien à faire. Vous avez compris? Donc, Akadosh Baruch Hu doit dévoiler cette nation. Et cette nation apparaît à la sortie d'Égypte dans la bouche du pharaon lui-même. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Nous avons une donnée essentielle. Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes rentrés en Égypte des individus et nous sommes sortis d'Égypte un peuple. Quel ridouche! Il n'y a pas plus grande nouveauté que ça dans le monde. Umikach, sheyesh la'eruah hazeh erech merkazi bekol ma'alach ha'historia. C'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire réelle, telle que Dieu veut qu'elle soit, puisque l'histoire va passer à travers qui? Le peuple d'Israël. Quand est-ce qu'elle commence cette histoire? Qu'à la sortie d'Égypte. Donc avant la sortie d'Égypte, nous étions dans la préhistoire. Et l'histoire ne commence qu'à la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte va jouer le rôle de quoi, finalement, maintenant? D'un nouveau monde. Conclusion intermédiaire, nous avons un monde avant la sortie d'Égypte et nous avons un monde nouveau après la sortie d'Égypte. Moralité, la sortie d'Égypte équivaut à quoi? À une nouvelle création du monde. Comme si le monde venait d'être créé. Et je vous dis en réalité une Gemara. Dans le traité de Rosh Hashanah, c'est ce que nous disent les Chachamim. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua se pose la question, quand est-ce que le monde fut créé? Extraordinaire. Rabbi Eliezer dit dans la Gemara de Rosh Hashanah, la page 10 et 11, que le monde fut créé, quel mois? Tishrei. Rabbi Yoshua, il dit non, le monde a été créé à Nissan. Vous croyez que c'est des imbéciles, ils sont en train de parler de quel mois? D'abord, est-ce qu'il y avait des mois quand le monde fut créé? Est-ce qu'il y avait un temps, Bichlal? Il y avait des notions de temps? Il n'y avait pas tout ça. De quoi tu es en train de me parler? Les gens ne se posent pas la question quand ils étudient la Gemara. Je ne comprends pas, moi. S'il y a déjà un temps, il y a Nissan et Tishrei. À Nissan, il y a le printemps. À Tishrei, il commence à pleuvoir, c'est l'automne, et Dieu crée le monde. Attends, je ne comprends pas. Il est ou il n'est pas? La notion de temps, quand est-ce qu'elle est apparue? Au moment de la création. Donc comment tu peux me dire que la création du monde, elle était à Tishrei ou à Nissan? De quoi il parle, ces rabbins? Ribbono shel Olam, mais toi tu lis la Gemara comme un imbécile et tu avances les pages sans te poser les questions. C'est comme ça que tu veux grandir dans la Torah. Si ce n'est que les sages d'Israël, qui sont des sages, sont en train de me dire quelle est réellement la création du monde. Est-ce que c'est au moment où Dieu a créé le monde ex nihilo, c'est-à-dire de la non-matière, il a créé la matière, et ça effectivement c'était à Tishrei, puisque tout le monde, c'est-à-dire pas dans le mois de Tishrei, mais dans la notion de Tishrei, qui un jour, quand elle viendra dans le monde, on saura que c'est ce mois qui correspond à ça. Ou bien, selon leur version, non, le monde ne m'intéresse même pas avant Nissan, c'est-à-dire quel Nissan? De la sortie d'Égypte. Extraordinaire. Regardez cette discussion qui paraît banale au départ, qui en réalité touche l'essence même de la vie. Quand est-ce que tu as commencé réellement à vivre? Au moment où tu es né ou au moment où tu t'es libéré de tes prisons? Même si tu as déjà 3000 ans. Ah, ça change tout. Il y a des gens qui peuvent avoir aujourd'hui 60, 70 ans. Mais comme ils ne sont pas encore sortis de leur Égypte, individuellement maintenant, ils sont encore dans leur préhistoire. Et combien de temps ça te prend pour comprendre qu'il faut sortir d'Égypte et arriver sur la terre d'Israël ? Comprenez que l'histoire du peuple au niveau collectif, c'est l'histoire de chacun de nous. Moi, je vous conseille juste une seule chose. En hébreu, on dit l'ixostremp. C'est-à-dire monter vite dans la voiture qui est déjà en train de rouler. Quand ? Eh bien, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, il y a la paracha de la sortie d'Égypte. Au moment où je vais la lire, hop, je vais sauter moi aussi dans ce véhicule. Et je vais sortir moi aussi. Nous avons 3 semaines pour nous préparer à sortir d'Égypte. Puisque nous sommes dans la paracha de Vaïri, Shemot, Vaera, Bo. Bessalak, je sors. Donc nous avons 4 semaines maintenant, 3 semaines on va dire, dans laquelle nous sommes, dans lesquelles nous sommes encore dans cet exil. Qu'est-ce que je fais pendant cet exil? Je commence à me poser des questions, comment je vais sortir? Comme un prisonnier qui essaie de voir des failles. Est-ce que je peux creuser un trou ici? Est-ce que je peux faire un truc là-bas? Il faut que je sorte. Dans 3 semaines, je vais utiliser le mouvement de la sortie d'Égypte que je vais lire dans la Torah pour sortir moi-même. C'est magnifique. Alors vous pouvez dessiner sur votre vitre dans la voiture, tu es en train de conduire, tu dessines sur ta vitre un bonhomme sur une bicyclette. Et tu le regardes pendant que tu roules. Et il roule en même temps que toi. La Torah n'est pas juste un livre d'histoire à Bottaï. Elle vient te demander de participer à ce que tu es en train de lire. Je vous l'ai dit au début de mes propos, quand tu lis un texte, tu fais en sorte que l'oiseau ouvre ses ailes et qu'il sorte du texte pour arriver à la vie. Si tu ne le fais pas, tu as raté ta lecture. Tu as l'impression que tu es un bon juif parce que tu es parti à la synagogue, tu as mangé ta tafina à faire, après, et tu es rentré, tu fais ta sieste. Et... Arrêtez, arrêtez de tomber dans cette religion, arrêtez. On est une nation qui est en train de jouer un rôle pour dévoiler l'infini dans ce monde et on est à la fin de ce processus, Rabotai. Réveillez-vous. Ribbono shel Olam, réveillons-nous. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un petit bonhomme, patron d'une petite boîte qui est en train de marquer des petits points, des machins, il a fait celui-là, et il n'a pas répondu au Kaddish, il n'a pas fait ça, c'est ça, sans problème. Ça c'est quand tu es déjà dans la nation, quand tu es déjà dans le mouvement, alors on va commencer à regarder les détails. Mais sors d'abord. Sors d'Égypte. À travers la rédemption, derech geulato shel am Yisrael, Echel Aratson Aelion Litgalot Gamken. Donc à travers ce peuple qui est sorti, ce peuple, cette nation qui est sortie d'Égypte, il a fait la même chose. L'infini, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est faufilé. Et il s'est dit, j'utilise l'heure sortie pour moi-même descendre dans le monde, parce que jusqu'à maintenant, je suis encore dans mon ciel coincé. Je ne peux pas descendre dans le monde, puisque le peuple qui me fait dévoiler dans le monde n'est pas. Maintenant que ce peuple est, qu'il est en train de sortir d'Égypte, moi, l'Éternel, je vais utiliser ce peuple pour me libérer de mon ciel, de la prison céleste. Pour vous, le ciel, c'est l'ouverture totale. Hein. Mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui, par exemple, a de bonnes pensées, mais qui n'arrive jamais à les réaliser, il est en prison. Il est en prison dans sa tête. Il n'arrive jamais à descendre aux jambes. Il a plein de projets, il n'arrive pas à les faire. Il a plein d'idées, il n'arrive pas à les réaliser. Vous croyez que c'est facile? C'est une prison. C'est une prison, c'est une souffrance. Et lorsqu'il s'agit de l'infini, béni soit-il, qui a créé ce monde pour descendre, entre guillemets, pour s'y révéler, tant que ce peuple n'est pas, tant qu'il n'est pas sorti d'Égypte, eh bien il reste coincé dans ses idées. Alors il a créé le monde, et alors? Lui-même, il s'en fiche complètement, le créateur, d'avoir créé le monde. La preuve, dans sa carte d'identité, il n'y a pas marqué créateur du monde, il y a marqué celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Bizarre quand même. C'est ce qui a marqué dans les 10 paroles. Au mont Sinaï, Anochi Adonai Elohecha Asher Hosseticha Me'eret Mitzrayim. C'est ça ma carte d'identité. Je ne suis pas le créateur du monde, on s'en fiche de ça. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que quand toi tu as commencé à vivre, moi, à Kadosh Baruch Hu, j'ai commencé à vivre. Quand le peuple d'Israël est sorti de sa prison, moi, à Kadosh Baruch Hu, je me suis libéré de ma prison et je suis en train de me dévoiler et descendre sur terre. Et depuis cette sortie d'Égypte, jusqu'à maintenant, nous sommes dans ce cheminement, nous accompagnons Dieu et Dieu nous accompagne dans cette histoire qui n'est ni plus ni moins que l'histoire divine à travers l'histoire des hommes que nous sommes. Vous avez compris? Place aux questions. Doucement, bismillah. Qu'est-ce?
Bon, moi j'en ai plusieurs. Déjà quand vous dites que étudier l'histoire, c'est étudier Akadosh Baruch Hu.
D'accord.
Et quand il y a des événements tragiques dans l'histoire, donc ça veut dire que... Non, vous avez dit étudier l'histoire, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu.
D'accord.
Quand il y a, par exemple, on prend la Shoah, c'est le dévoilement de...
De la Dalle. Par la négative. Parce que toi, tu as l'impression que Dieu il s'est barré quand il y avait la Shoah.
Non, ben, il s'est barré, mais...
Alors quoi? C'est pas lui qui était dans cette histoire? C'est-à-dire, Dieu il est partout, sauf dans certains événements, c'est ça que tu es en train de dire? Non. Il est dans tous les événements, on est d'accord. Il a fait. Ça veut dire qu'il faut comprendre que lorsque je ne fais pas, je ne joue pas mon rôle, eh bien, la révélation de Dieu se fait par le tragique, par le côté inverse de la vie. Le peuple d'Israël, qui était à cette époque-là, croyait que Berlin, c'était Jérusalem. Malheureusement. Et quand tu disais à quelqu'un de faire son alia, il se foutait de ta gueule. Excuse-moi l'expression. Il y a fait. Mais justement, il y a des moments dans l'histoire où il y a des ouvertures. Il y avait plein de sorties d'autoroute. Il y a des sorties d'autoroute.
L'alia en 1919, c'est pas l'alia maintenant.
Il y a fait. Alors, peu importe.
Mais on peut pas reprocher à des Polonais où il y a eu 1 million de morts, etc., de dire qu'ils pensaient que c'était Berlin.
Écoute-moi, c'est pas moi qui le dis. C'est eux qui le disent. Est-ce que tu as lu le livre de Rabbi Israël Teichtel? Em Habbanim Semecha, tu l'as lu? Je te conseille de le lire, c'était l'un des plus grands rabbanim de cette époque, dans la Shoah, qui a écrit un livre de Teshuvah, en disant ce que je suis en train de te dire. J'étais un des plus grands rabbins de toutes les communautés d'Europe et je disais à mes élèves de ne penser qu'au chiour de demain de Gemara qu'on allait étudier. Et jamais, au grand jamais, on a parlé du retour sur la terre d'Israël parce que c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'écris ce livre pour faire Teshuvah parce que tous mes élèves sont morts dans la Shoah et lui-même, il est mort après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de ce que Dieu veut, pas de ce que toi, ça t'arrange. Et ce que Dieu veut, c'est marqué dans la Torah. On ne peut pas inventer une Torah. Jusqu'à présent, aucun homme a écrit une Torah. La Torah, on a la conviction qu'elle vient du divin, pas de l'homme. Chas v'shalom, un homme change quelque chose dans la Torah, c'est plus une Torah divine, c'est une Torah intellectuelle humaine, donc limitée. Je ne me dois pas d'être fidèle à une Torah pareille. Pourquoi je suis fidèle à la Torah? Parce que j'ai la conviction que c'est une Torah qui vient de l'infini. Et cet infini, qu'est-ce qu'il me demande? Sans arrêt, tout au long de la Torah, de fonder une nation sur sa terre. Quand j'ai la possibilité de le faire et je ne le fais pas, alors je suis coincé. Mais quand je ne veux pas le faire, ça devient pire. Ok?
Vous avez dit que les sont bloqués au ciel, tant que le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Israël est limité?
Oui. Il s'est limité lui-même dans la règle qu'il s'est lui-même créée. Il a créé cette limite. C'est-à-dire, je ne me dévoilerai que à travers vous. Et je vais citer là où il le dit. Atem edai ve'ani el. Tant que vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. Koach ma'asav, une autre référence, higi le'amo. Les actions divines, il les a fait passer par qui? Par son peuple. Où est-ce que Dieu est grand? Adonai Bession. Gadol. Il est grand à Sion. Ça veut dire qu'il est petit ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ces notions-là? Vous les dites tous les jours. Alors, si c'est juste pour chanter vendredi soir à la synagogue, c'est sympathique, mais il faut que tu comprennes ce que tu dis. Si je dis que Dieu est grand à Sion, ça veut dire que je le rends moi-même petit. Lorsqu'il n'est pas à Sion, Chas v'shalom. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans la partie secrète de la Torah, Gadlut ou Katnut Hamochim. La grandeur ou la petitesse des cerveaux. Mais nous devons grandir. Et ne pas avoir peur de grandir. Okay.
Et donc il n'y avait pas de Shrina avant la
Kabbalah? Non, il n'y avait pas de Shrina. La Shrina a commencé à s'échapper de la terre. Depuis la faute de Adam Arishon, elle est montée à chaque génération un ciel. La Shrina qui était sur terre au moment de la création du monde, après la faute du premier homme, s'est détachée de la terre et a commencé à s'éloigner 7 degrés. Et elle est redescendue 7 degrés jusqu'au moment du don de la Torah. Okay.
Moshe, vous dites qu'il n'y a pas de Shrina en Égypte. Mais Moshe, il parlait avec Hachem.
Non, il ne parlait pas avec Hachem en Égypte. Il devait sortir d'Égypte pour parler avec Hachem. Exactement, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Vayehi, ketseti et haïr, quand je sortais de l'Égypte, vaefros kapai, j'ouvrais mes bras pour parler à Kadosh Baruch Hu. Nous disent les Chachamim, de là que la prière ne passait pas en Égypte, elle ne peut pas passer en Égypte, elle ne passe qu'en Eretz Israël. Alors les sages se posent la question, alors quoi, Moshe rentrait en Eretz Israël à chaque fois qu'il priait? Réponse, oui. Toi, tu comprends pas ce que ça veut dire. Il a fait. Mais il faut comprendre toutes ces notions. En tout cas, la tefila ne passait pas en Égypte. Il fallait qu'il sorte à chaque fois.
Donc il ne parlait pas en Israël.
Non, il parlait en Israël.
Donc il est allé en Israël.
Il est allé en Israël.
Il
n'est pas rentré physiquement, mais dans ce union-là, il a eu comme un voyage. Même les enfants d'Israël, regarde la Gemara de la sortie d'Égypte. Où est-ce qu'ils ont fait le Corban de Pessah? Nous dit la Gemara. À Yerushalayim, sur le mont du Temple. Tous les enfants d'Israël sont venus ici, à Kadosh Baruch Hu, les amis, ils ont fait le Corban, ils sont repartis en Égypte pour revenir. Alors il faut comprendre ces notions, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ça veut dire que quand tu pries en dehors d'Eretz Israël, tu te dois de faire passer ta Kavana par Eretz Israël, sinon ta Tfila ne peut pas monter. Et c'est pourquoi qu'il faut se tourner vers la terre d'Israël pendant chaque Tfila. Comme il est dit, « Vehit palelu elai derech arsam, vous ne pouvez pas me relier à vous » si ce n'est pas à travers votre terre. Donc si tu es à Marseille et tu pries vers la Canière, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas dans ta pensée d'être en Eretz Israël et que ta tefila passe par ici, ça ne monte pas.
C'est-à-dire qu'on peut être en Galoute, dans le pays d'Israël, et
quand
on dit
évidemment
ne pas être
connu. Tant qu'il n'y a pas de Malchoute. C'est ce qu'il y avait pendant toute l'époque de la Galoute, quand il n'y avait pas la possibilité. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire la même chose. Okay.
Sachant que chaque jour a son propre ciel.
Okay.
Ça veut dire que si on étudie chaque jour de l'histoire précisément, okay, on est capable de savoir comment il faut qu'on se comporte les jours qui viennent.
Exactement. Tu as tout compris. Comme il est dit, Bayamim Ahem, Bazmanazé. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamimayam Bazmanazé? J'utilise ce qui s'est passé à cette même époque pour le ramener maintenant. Pourquoi je fête Hanouka le 25 décembre? C'est pour ça qu'ils ont fait le 25 décembre. Vous ne croyez pas? Mais pourquoi je fête Hanouka le 25 du mois de Kislev? Pourquoi? Pourquoi cette date précise? Il fait froid, viens, on décale Hanouka deux semaines. Parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est une date qui a une force. Il y a quelque chose qui circule dans l'univers, je réveille la même force au même moment. D'où l'importance que je vous ai dit. Profitez de ce que vous lisez dans la Torah au moment où vous le lisez, c'est ce qui se passe dans l'univers. Moralité, pendant les trois semaines où on est, maintenant on n'est pas encore sorti d'Égypte, on est en exil. C'est-à-dire que vous allez avoir pendant ces trois semaines beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de bilboules, presque d'embrouilles dans votre tête. Vous allez être mal dans votre peau depuis la semaine dernière. Vayechi, parce qu'on est descendu et la paracha nous dit, les chachamim, elle est stouma, elle est bouchée. Vous avez plein d'envies, plein d'autres choses, mais vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire. Vous comprenez que c'est très important. C'est-à-dire on revit ce que nous lisons dans la paracha. Et plus que ça, si tu montes dans la paracha, on te fait monter à la Torah, tu vas monter à un passage bien précis. Nous dit le Hari Akadosh, le Harizal, fais très attention, lis le passage dans lequel tu es monté, ça correspond à ce que tu es en train de passer maintenant dans ta vie. Donc si vous savez lire, vous pouvez savoir en réalité, vos copains quand ils sont montés chlichi dans la paracha de machin, de quoi il s'agit. Tu peux rien choisir du tout, t'as l'impression que je suis choisi. Je vais te raconter une histoire. L'ange de la mort, qui était en train de se balader dans la rue de Bagdad. Et il y a le vice-roi de Bagdad qui sort dans la rue et qui reconnaît l'ange de la mort. Et il se sort de lui. Et il rentre vite chez le roi et le roi le voit blanc. Livide. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais dans la rue et j'ai vu la mort. Je n'ai pas envie de la voir. Il dit, alors écoute, je ne sais pas. Il dit, donne-moi un cheval, donne-moi de l'argent, je m'en vais à, peu importe, dans une autre ville, à 20 km, 100 km de cet endroit. Je viens avec mon cheval et c'est fini. Comme ça, je me sauve. Le roi sort quand même dans la rue et il voit la mort. Et il lui dit, pourquoi tu as fait peur à mon serviteur? Il dit, la vérité, moi je ne voulais pas le faire peur. J'avais rendez-vous avec lui demain matin dans l'autre ville. Mais il m'a juste vu avant. Non, c'est pas le Mektoub. C'est pas le Mektoub. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre, il n'y a pas de Mektoub. Quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que vous êtes en train de vous dire, vous pouvez sortir, et c'est ça sortir de l'Égypte. C'est ça exactement sortir d'Égypte. Tu choisis, tu peux choisir en réalité, mais même ton choix dans l'absolu, Akadosh Baruch Hu le connaît. Quel? Okay. J'ai pas défini. J'ai juste commencé à en parler. On peut pas définir Yudke Vavke.
Vous avez donné différentes définitions. Vous avez parlé des quatre éléments. Les quatre éléments ne sont pas plus rattachés à Elohim qu'à
Yudke Vavke. Mais Elohim, il est rattaché aussi à Yudke Vavke, puisque tu dis. Adonai ou Elohim. Alors, ça mentit. Tu comprends bien qu'il se dévoile à travers aussi Elohim et tous les noms. Il y a d'autres noms.
Au niveau dévoilement, c'est
Yud Kebaske, mais à l'intérieur de Elohim, qui sont les lois de la nature, il y a une Neshama. C'est comme toi, si je te regarde, humainement parlant, tu as plein de lois. Tu manges, tu digères, machin, mais tu es bien conscient qu'il y a Yud Kebaske à l'intérieur de toutes ces règles. Quel? Attends, il y a encore une.
Vous avez dit, le peuple juif, c'est le cœur.
Oui.
C'est qui le cerveau?
Le cerveau de ce monde, normalement, c'est les nations du monde. C'est-à-dire les nations du monde, ce que je viens de dire, puisqu'il y a marqué Chochma Bagoïm Ta'amim. Les Chachamim nous disent que quand les Goïm vont créer quelque chose au niveau de la sagesse, crois-y. Tu peux y croire, parce que ils ont ce côté-là de la Chochma. Mais, ils n'ont pas le côté divin de cette chose-là. Ça veut dire que j'irai volontiers acheter une voiture chez un Allemand, parce que c'est une chokhma automobile, alors que si un Israélien invente une voiture, fais-toi, méfie-toi. C'est là ? C'est là ? Mais ce qu'a Israël n'aura pas l'Allemand, c'est-à-dire Torah bagoim al-Tamim, il n'a pas de Torah. C'est-à-dire nous, on a un élément qui dépasse complètement. Donc la chokhma, tu peux y croire, c'est le cerveau. Mais le cerveau, enfin le cœur qui est en réalité beaucoup plus profond, ça c'est autre chose.
Okay. Donc c'est pour ça que quand vous dites la préhistoire, c'est-à-dire okay. Un cadre qui se révèle de façon très visuelle.
Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, il le dit. Il le dit. Ushmi yut ke vav ke lo noda'ati lahem. Je ne me suis pas révélé encore dans le monde, même à Abraham, même à Yitzhak et même à Yaakov avec ce nom-là. Quand est-ce que je vais me révéler avec ce nom-là ? Que lorsqu'il y aura un peuple. Donc aucun individu ne peut atteindre ce nom-là. Il n'y a qu'un peuple qui peut atteindre ce nom-là. Donc faites en sorte toujours de vivre au niveau de votre peuple et pas au niveau individuel. Parce que vous risquez en réalité d'être détaché complètement de la nation d'Israël et Chas v'Shalom de vivre dans votre niveau intellectuel, privé, individuel, qui va vous amener à plein de choses dans la vie, mais pas à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin de ta vie, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai fait... J'ai fait plein de choses, apparemment j'ai réussi dans plein de domaines, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu ou alors j'étais hors jeu? Hors sujet. C'est comme si je faisais une dissertation sur un sujet que la prof ne m'a pas donné. Elle va me dire, mais tu as 100 sur ta dissertation, mais moi, le sujet que je t'ai donné, c'est pas là, c'est bon. Qu'est-ce que je te dis? Alors, c'est important ce que tu veux, toi. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Auquel cas, si c'est Dieu, toi-même. Si tu t'écoutes à toi-même, finalement, tout le temps, il n'y a que tes intérêts qui passent en premier. Donc, ton ego va dépasser Akadosh Baruch Hu. Ken.
Une question, quand vous avez dit la dimension organique du monde, avec Israël qui est le cœur, à partir du moment où il y a l'exil des hommes, un exil, le cœur n'est plus forcément là.
Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que les exils s'appellent la mort.
Alors pourquoi le monde n'a pas été détruit à partir du moment?
Il a été détruit, c'est une forme de destruction. Chaque fois qu'Israël sort de sa terre pour aller en exil, c'est une forme de mort. Je l'ai dit tout à l'heure, à tel point qu'on appelle ça un cimetière. Mais que se passe-t-il? Au lieu de tuer complètement, le cœur est en réalité dans son minimum vital, c'est-à-dire qu'il va être comme pendant que tu es dans un rêve ou pendant que tu es dans un sommeil. Tout est rassemblé dans les... Tout est refroidi. Tout est en train de... Ton exercice humain est en extinction. C'est vrai ? Donc c'est un grand sommeil. D'ailleurs, on appelle les morts Yeshene Afa. Donc l'exil est une grande torpeur, est un grand sommeil dans lequel tu peux t'endormir. Et pour revenir en Israël, il y a marqué Veshuv Hashem et Shiva Tzion Aynu Kecholmin. Si tu ne rêves pas à revenir ici, c'est ta seule possibilité d'un jour revenir, c'est de continuer de rêver. Si tu as arrêté de rêver, Chas v'Shalom, tu es mal.
Okay. C'est-à-dire que selon la logique, c'est-à-dire qu'il y a des morts en exil, il n'y a aucun grand rave en exil, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts.
Ça te fait mal, non?
Non, moi je ne suis pas grand rave en exil.
Non, mais peu importe. Peu importe. Dis-moi, tu vas comparer tous les grands rabbanimes que tu es en train de parler à la parole de Dieu, qui est à travers le prophète Ézéchiel, mais où on est là? Dans quelle comparaison? C'est lui qui dit ça, c'est pas Yoël. Tu veux que je le lise? Donne-moi un Tanakh. Donne-moi un Tanakh. Je vais te le lire. Il y a un Tanakh ici? Ça c'est un Tanakh, ça? Ah, c'est en français, ça. Arrêtez de me donner des noms. Je vous lis ce que Ézéchiel nous dit, ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire. Arrêtez de me sortir des machins, des lapins de votre manche. D'accord ? Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il peut être le plus grand du monde. C'est, il peut être le plus grand du monde, c'est pas ce que ça vaut beaucoup de monde.
Mais il est mort.
C'est bon. Je parle de la nation est morte. D'accord. Ok. Un jour j'ouvrirai vos tombeaux. Et je vous ferai monter de vos tombeaux, Ami, mon peuple, pour vous ramener sur la terre d'Israël. Et vous allez savoir et reconnaître que c'est moi l'Éternel, Yudke Vavke. Quand? Quand j'ouvrirai vos tombeaux. Ou que je vous ferai monter, Mikivrotechem, encore une fois, de vos tombeaux, comme si on n'avait pas compris, hein. Ça devient beaucoup, hein. Ami, mon peuple. Et alors, Venatati Ruchi Bachem, je vais commencer à insuffler mon souffle à l'intérieur de vous. Vechitem, vous allez revenir à la vie. Veinarti Etrem Aladmatrem, je vous ai posé sur votre terre. Veidatem Kiani Adonai, Dibarti Veasiti, je vais le faire. Ce que je suis en train de vous dire, Neum Hashem, je le jure par mon nom. Voilà, il ne ment pas, vous êtes là. Ça veut dire que, pardon ? Lis le Maharal de Prague et lis le Gaon de Vilna qui nous disent qu'en réalité, tout ça, c'est Israël. Et même ici, il le dit. Vayomer elai ben adam ha'atamot ha'ele. Le Maharal de Prague, il ne pouvait pas... Il est mort en exil. Il ne pouvait pas... Mais il disait la vérité. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, je ne peux pas fonder une nation sur ma terre. Donc en réalité, on est encore dans la panade. C'est pas contradictoire. Au moment où je ne peux pas le faire, je considère que je suis malade, mais je suis en voie de guérison parce que je rêve, mais au moment où ça se fait, devant mes yeux, je ne peux pas aller contre ce qui est déjà en train de se faire. Regardez. Akadosh Baruch Hu fait cette chose-là, et le prophète Ézéchiel dit à Akadosh Baruch Hu, c'est qui tout ça? C'est qui tous ces morts-là? Vayomer Elai, Dieu me répond, Ben Adam ha'asamot ha'el et kol bet Israël hema. Ce sont les enfants d'Israël. Omrim Yapshu Atmotenu qui disent que nous sommes comme des ossements desséchés. Avda Tikvatenu, on a perdu notre Tikva. Pourquoi on a appelé l'hymne national à Tikva? Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Odlo Avda Tikvatenu. Ça vient de là. Ça veut dire qu'on a inversé le processus. Lachen Hinabe. Et je te demande de prophétiser. Maintenant, est-ce que je parle de ça? Eh bien, je vais te lire. Voilà. Vayei dvar Adonai elai lemor. Akadosh Baruch Hu parle au prophète. Il lui dit, Ben Adam, fils de l'homme, Bet Israël Yoshvim al Admatam, les enfants d'Israël sont sur leur terre. Vaitam uota, mais seulement ils ont fauté. Ils l'ont rendu impur. Bedarkam ou Be'alilotam, ça veut dire qu'ils ne se sont pas conduits comme il faut. Ketum atanida, donc maintenant je considère qu'ils sont impurs comme la femme Nida. Sous-entendu, une impureté limitée dans le temps. Passagère. Vaishpo Khamati Alehem, donc je me suis mis en colère entre guillemets. Va'afitotam bagoim, et je les ai dispersés parmi les nations du monde. C'est une colère de Dieu ou c'est un kiff? C'est une colère, on est d'accord. Vaizaru va'arasos, et ils ont été éparpillés parmi les pays. Kedarkam vechalilotam shepatetim. Vayavel agoim asher baoucham. Le problème, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, dans tous les pays où ils sont, vayechalelu et shem kochi. Ils ont commencé à profaner mon nom saint. Pourquoi ils ont profané mon enfant? Ils n'étaient pas religieux. Non, aucun rapport. Parce que ceux qui étaient là-bas, les goïms, les voyaient, et ils disaient, Be'emor lahem am Hashem ele. Vous savez, ça c'est des juifs, c'est le peuple de Dieu. Ou me'arzo yatsa, où ils sont juste sortis de leur terre. Le prophète est en train de dire que ça, c'est la plus grande profanation du nom de Dieu. Qu'un goï sache que tu es juif dans les rues de Paris et qu'il te dit, ou qu'il pense, c'est le peuple de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Pourquoi tu n'es pas sur ta terre? Profanation du nom d'Hachem. Va'echmol al Shem Kotchi. Et donc comme moi, je me dois de réparer le nom, moi, Kadosh Baruch Hu Bafoué, Asher Chilelu Bet Israël Bagoïm, Asher Baushama, qu'ils sont dans les nations, la reine est mort, les Bet Israël. Alors je ne vais pas vous ramener parce que vous êtes des tzadikim. Kim le Shem Kotchi, c'est pour mon nom. Parce que vous avez profané Asher Chilal Tembagoyim. Vekidashti Eshmi, donc je vais me sanctifier mon nom tout seul. Agadol Hamechulal Bagoyim, qui a été profané Asher Chilal Tembetocham, pour que les Goyim, Veyado Agoyim, qui est Ani Hashem, pour que les Goyim sachent que c'est moi l'éternel. Velakarti Etrem, qu'est-ce que je vais faire de facto? Je vais vous prendre. Minagoïm, de ces nations-là, Vekibati Etrem Mikola Arasot, je vais vous rassembler. Comment ça s'appelait la première alia? Les kibbutzim. Bizarre, hein? Vekibati. Veveti Etrem Elad Matrem, je vous ramènerai sur la terre. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Alors maintenant, toi, tu me dis, le rabbin, il n'était pas rabbin. Il était rabbin, et alors? Le peuple n'était pas à son niveau de peuple. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je ne comprends même pas ce que vous racontez. C'est comme si tu me disais, et quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il continue à réfléchir? Et alors? Mais il est cloué au lit. Il est à moitié mort. Et il est conscient jusqu'au moment de sa mort. Et alors? Vezarakti al-Khemaim Théorim, et je vous jetterai de l'eau pour vous purifier jusqu'en vous reviendrez sur votre terre et je vous donnerai un nouveau cœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça, c'est pas un prophète, c'est pas un bonhomme, c'est pas un rabbin qui parle. C'est Akadosh Baruch Hu à travers la bouche d'un prophète. Si on ne croit pas aux prophéties, il faut tout arrêter, hein, les mecs. Hein. C'est ça notre clé. C'est la prophétie. Quelle?
Bah, c'est bien, c'est pour ça, mais en gros...
Quoi, tu as peur maintenant?
Non, je veux comprendre vraiment.
Oui, moi aussi, on est là pour ça.
C'est ça la valise, d'accord? Vraiment, ils vont...
C'est des grands...
Non, d'accord, mais une seconde, ils vont tout étudier dans tout, ils vont être très droits.
Et alors?
Pourquoi? Ils vont arriver au...
Pas du tout, pas du tout. Écoute les paroles de tous les grands d'Israël, ils vont te dire exactement ce que je suis en train de te dire, personne ne peut contredire ça. Eux aussi. Mais parce qu'ils ne considéraient pas que c'était... Parce qu'ils ne considéraient pas qu'Israël c'était ça. Ils ne considéraient pas que l'Israël qu'on voit aujourd'hui, c'est l'Israël qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu.
Il a fait.
Exactement. C'est tout. Moi, je ne peux pas contredire Akadosh Baruch Hu lorsque je vois qu'il fait quelque chose dans son histoire. Et quand je vois que le peuple est en train de revenir, qu'il est en train de se réveiller de sa torpeur de 2000 ans, comment moi je peux dire non, c'est pas la Géoula que j'ai compris dans mon cours. Excuse-moi, mais Kadosh Baruch Hu est en train de me faire tellement de miracles. On a gagné toutes les guerres, Baruch Hashem. On est là en train de se développer. Comment on peut dire le contraire? Je suis d'accord, on a compris, on s'est compris. Ok. Alors, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois, on continuera Be'ezrat Hashem dans ce sens. Soda Rabba. Merci, Soda Rabba.